Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud.
C'est quand même très important que les femmes puissent maintenant oser dire, comme elles n'osaient pas dire avant le viol, maintenant un grand nombre, pas toutes, mais un grand nombre osent dire le harcèlement.
La violence sournoise, mais totale, que l'on subit ici, dans les usines, tout cela maintenu au nom de l'économie, est en réalité une mise en esclavage.
Une mère célibataire, même après la naissance de son enfant, reste sous la tutelle de ses parents.
C'est une règle des droits de l'homme que précisément les hommes doivent aider les autres hommes.
Sartre et Beauvoir, ils forment le couple d'intellectuels iconiques du XXe siècle. Ils ont révolutionné la philosophie et le féminisme. Guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, révolution cubaine. Ils ont aussi été de tous les combats politiques entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970.
C'est que je suis un intellectuel et que voilà, un siècle, l'alliance du prolétariat et des intellectuels a existé et qu'elle représentait une force considérable. Il faut que les intellectuels et les ouvriers s'unissent.
Mais Sartre et Beauvoir, c'est aussi un couple qui a forgé une vision moderne de la relation conjugale.
Et la liberté sur laquelle on a beaucoup glosé entre deux, c'était quelque chose de réel ou c'était quelque chose qu'on a exagéré a posteriori ?
Oh non, c'était quelque chose de tout à fait réel. Et elle savait à peu près tout ce que Sartre faisait.
À travers les relations passionnelles et parfois tragiques de ces deux philosophes engagés, nous allons nous replonger ensemble au cœur des grands moments du siècle dernier dans une série spéciale en 4 épisodes émaillée d'archives Europe 1. Sartre et Beauvoir existaient ensemble. Nous sommes à Paris en octobre 1929, sur un banc de pierre, dans les jardins du Louvre. Jean-Paul Sartre a 24 ans. Dans 2 semaines, il va devoir partir faire son service militaire. Pendant plus d'un an, il sera accaparé par son devoir national. Il ne veut pas partir sans avoir des garanties sur sa relation avec la femme qu'il aime, son castor, Simone de Beauvoir. La jeune femme de 21 ans, qui a plusieurs fois refusé l'idée de se marier avec lui, écoute sa proposition. Le philosophe expose les termes d'un contrat de 2 ans, une sorte de bail pendant lequel ils resteront ensemble quoi qu'il arrive. Mais ils ne seront pas tenus d'être fidèles sur le plan charnel. Ils seront l'un pour l'autre leur amour nécessaire, leur relation principale empreinte de tendresse, de soutien et de loyauté. Mais il pourra y avoir, de part et d'autre, des amours contingentes, c'est-à-dire des relations de passage, en plus, secondaires, qui peuvent arriver ou non. La seule chose qui compte, c'est qu'ils devront tout se dire, être transparents. C'est cette honnêteté qui distinguera d'ailleurs leur amour nécessaire des amours contingentes. Là, en cette journée d'automne parisien, Simone de Beauvoir doit prendre une décision. Si elle accepte ce pacte, elle renonce définitivement au mode de vie de la bourgeoisie à laquelle elle appartient. Épisode 1. S'émanciper à deux. C'est une histoire qui commence à Paris pendant la Belle Époque, à l'aube du XXe siècle, alors que les femmes portent encore des corsets et que les hommes sont seuls au centre de la vie publique. Jean-Paul Sartre naît en 1905 dans le 16e arrondissement de Paris. Il vient d'une famille bourgeoise. Son père est polytechnicien et officier de marine. Mais Jean-Paul ne le connaîtra jamais car son père meurt de la fièvre jaune 1 an après sa naissance. La mère de Jean-Paul, Anne-Marie, vient d'une famille d'intellectuels et d'ingénieurs. Une fois veuve, la jeune femme s'installe chez ses parents avec son petit garçon qui devient la prunelle de ses yeux. Son poulou, comme elle l'appelle, est un ange blond ravissant avec qui elle a une relation fusionnelle. D'ailleurs, ces effusions de tendresse agacent le grand-père de Jean-Paul qui finit par emmener le petit trésor de la famille se couper les cheveux. Fini le petit ange. Papy forme désormais un futur intellectuel qui l'éveille à la littérature et aux sciences. Poulou est donc le centre d'une famille aimante et stimulante qui contribue à développer son narcissisme de petit génie. Tout le monde a bien compris que cet enfant dispose d'une intelligence supérieure. Cette enfance choyée s'arrête alors que Poulou a 12 ans, au moment où sa mère se remarie avec un autre officier de marine. Pour l'adolescent fusionnel, c'est une trahison. Il découvre alors que sa mère n'appartient pas qu'à lui. La réalité lui est brutale, mais c'est ainsi. Après quelque temps à La Rochelle, auprès de ce beau-père avec qui il a des relations exécrables, Jean-Paul est renvoyé à Paris. Il fréquente les enfants de l'élite de la capitale entre le lycée Montaigne et le lycée Henri IV. C'est là qu'il se lie d'amitié avec Paul Nizan, l'autre intellectuel de sa classe. Tous les deux sont assez caustiques et ultra-élitistes. Ils se baladent en cours de grec et de latin et ils font des bons mots sur tout le monde. Ils rêvent déjà de devenir écrivains et ils se soutiennent pour laisser éclore leur personnalité peu banale. Cet ensemble qu'il prépare en 1924, le concours d'entrée à l'École normale supérieure. L'ENS est le temple républicain de l'élite intellectuelle. Sans surprise, Sartre et Nizan sont reçus. Les voilà sur les bancs de l'école prétendue normale et dite supérieure. Cette façon de nommer l'ENS est leur moyen de se moquer de cette vénérable institution fondée pendant la Révolution française, mais où le petit peuple n'entrera jamais. Temple républicain du savoir, oui, mais pas démocratique. Sartre se distingue vite de ses congénères en commençant à écrire des contes dans lesquels il montre ouvertement son mépris pour les vies conventionnelles. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer des scènes de théâtre et disséquer les mœurs de ses contemporains. Sartre a tout pour devenir un génie des belles-lettres. Il met aussi sa verve au service de ses opinions politiques clairement antimilitaristes. Il devient le roi de l'esclandre. C'est sur les bancs de l'ENS que le duo Sartre-Nizan devient un trio en intégrant René Maheu, futur philosophe et haut fonctionnaire. Ce sont les rois de la promo. Ils sont arrogants, supérieurement intelligents. Et pourtant, il y a du beau monde autour d'eux. Il y a les futurs philosophes Raymond Aron et Maurice Merleau-Ponty. Et surtout, il y a notre père à tous, à nous, les historiens-conteurs, Henri Guillemin. 4 ans plus tard, contre toute attente, Sartre échoue à l'agrégation de philosophie. Nous sommes en 1928, il a alors 23 ans. Il est courroucé, c'est rien de le dire, ça ne peut être qu'une erreur selon lui. Mais le voilà à préparer à nouveau le concours à la Sorbonne. Parmi les étudiants de la Sorbonne qui préparent l'agrégation, il y a une jolie brune au regard bleu perçant, brillant d'intelligence. Bien que Sartre drague tout ce qui porte une jupe, cette jeune fille-là, il ne l'approche pas, car c'est René Maheu qui est allé lui parler en premier. Et le voilà maintenant obligé d'attendre qu'il la lui présente, car à l'époque, on n'aborde pas les femmes sans être introduit. Pendant qu'il ronge son frein, intéressons-nous à cette fille aux yeux bleus. Vous l'avez reconnue, bien sûr, c'est Simone de Beauvoir. Pour elle, tout commence à Paris en 1908. Elle est la première née d'une famille de la grande bourgeoisie. Son père est un avocat amateur de lettres qui rêve de mondanité romantique et sa mère est une grenouille de bénitier qui veille à l'éducation de ses deux filles. Oui, deux filles. Georges de Beauvoir est déçu, mais il considère bientôt qu'Hélène, sa cadette, est la jolie fille de la maison et Simone, l'aînée, est l'intelligente. Sous-entendu qu'elle n'est pas jolie. Il dit aussi à Simone qu'elle a un cerveau de garçon. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase cruciale qui est, à mon sens, à l'origine de l'aphorisme beauvoirien « On ne naît pas femme, on le devient ». En ce début de XXe siècle, une femme qui a un cerveau d'homme, c'est une sorte de compliment. Ça veut dire qu'elle n'est pas taillée pour les futilités, l'amour de la dentelle et les romans à l'eau de rose, mais que son cerveau carbure vite et possède une appétence particulière pour l'étude. Simone essaye donc de se construire avec l'étrange regard de son père. Elle se voit donc comme une fille au physique ingrat et intelligente comme un garçon. Simone fréquente le cours Désir, un cours privé pour filles de bonne famille. C'est là qu'elle commence à écrire des articles de journaux pour l'école. Elle bouillonne déjà de remettre l'ordre établi en cause, mais elle n'en a pas le courage. Elle est fascinée par sa meilleure amie, Elisabeth Lacoing, une jeune fille sublime de la haute bourgeoisie, à la fois conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, et pourtant curieusement libre dans sa façon de voir le monde. Simone est un peu amoureuse de cette camarade qu'elle appelle Zaza. C'est un amour platonique pour une sorte d'idéal féminin. Après la Première Guerre mondiale, la famille de Simone connaît la déchéance économique. Simone devra travailler pour vivre. Comme elle est privée de dot, elle ne pourra pas faire un bon mariage. Pourtant, Simone soupire en secret pour un de ses cousins. Oui, elle rêve d'émancipation, mais au fond, à cette époque-là, on ne fait pas plus fleur bleue qu'elle. Quelque part, la déchéance sociale de ses parents est une chance pour Simone. Elle sait qu'elle veut devenir professeure de philosophie pour tout étudier et puis... elle veut posséder le monde. Elle veut écrire et être quelqu'un. Elle dévore des livres de toutes sortes. Et oui, comme elle a grandi, sa mère a plus de mal à maîtriser ses lectures. Sa foi chrétienne vacille alors qu'elle se forge ses premières idées philosophiques. Après son bac et ses premières années d'études supérieures à Neuilly, dans un établissement privé pour filles, Simone intègre la Sorbonne en 1926 pour étudier la philosophie. C'est là qu'elle commence à enseigner ponctuellement dans des établissements publics défavorisés de la région parisienne, aux grandes dames de ses parents. Mais Simone est heureuse. Elle s'émancipe progressivement d'eux et commence à gagner un peu d'argent. Mais ça lui permet d'acheter du maquillage, ce que sa mère lui interdisait jusque-là, parce que les filles de bonne famille ne se peinturent pas le visage. Simone commence à fréquenter les bars avec ses copines, découvre le plaisir de se faire offrir des verres par des garçons et de leur plaire. Après tout, elle ne semble pas si laide dans leurs yeux, même quand elle est à côté de sa jolie petite sœur Hélène. L'année scolaire 1928-1929 commence. Cette année est capitale parce qu'elle passera l'agrégation au printemps. Simone a remarqué trois garçons qui passent pour être les cadors de la prépa. Jean-Paul Sartre, Paul Nizan et René Maheu. C'est ce dernier qui l'a fait craquer. Un jour, Simone travaille à la Bibliothèque nationale, la BN pour les intimes. Le site François Mitterrand n'existe pas encore et les étudiants se retrouvent dans le quadrilatère Richelieu près du Palais Royal pour bûcher dans la spectaculaire salle des cariatides. C'est là que Simone se lie d'amitié avec Maheu. Maheu est déjà marié, mais ça ne l'empêche pas de tomber sous son charme. Elle le surnomme « l'ama chérie ». Et lui, il l'appelle Castor pour son sens du collectif et son esprit de construction. Enfin ça, c'est la version officielle. Plus prosaïquement, un jour, il griffonne sur un des cahiers de Beauvoir « Beauvoir égale beaver », Castor en anglais. Beaver, une expression qui sert aussi à désigner le sexe féminin. Simone de Beauvoir se défendra toujours d'avoir couché avec Maheu, mais les historiens ont des doutes bien légitimes au vu de leur correspondance. Sartre est très attiré par Beauvoir, mais Maheu freine des quatre fers pour la lui présenter. Un jour, il cède et Sartre donne rendez-vous le soir même à Beauvoir au jardin du Luxembourg. Et Beauvoir envoie sa sœur à sa place parce qu'elle n'a pas du tout envie d'y aller. Hélène le reconnaîtra facilement. C'est un homme laid avec des lunettes. Bon, vous aurez bien compris que ce sont ses mots à elle, pas les miens. Sartre est tout petit, 1m56, il a un énorme strabisme, un visage ingrat, mais son intelligence le rend irrésistible et peu de femmes lui résistent, sauf elle. Sauf Simone. Mais Simone revoit vite son jugement. Elle se rend compte que Sartre est supérieurement intelligent et qu'il correspond en tout point à ses rêves d'adolescente. Écoutez ce passage de ses mémoires d'une jeune fille rangée pour mieux comprendre ce qu'elle attend de son couple.
Si dans l'absolu, un homme ne valait pas plus que moi, je jugeais que relativement, il valait moins. Pour le reconnaître comme mon égal, il fallait qu'il me dépassât. La vie commune devait favoriser et non contrecarrer mon entreprise fondamentale, m'approprier le monde.
Eh bien cet homme qui la dépasse mais qu'elle voit comme son égal, cet homme qui va la pousser à réaliser ses rêves, c'est Jean-Paul Sartre. Au printemps 1929, Sartre et Beauvoir réussissent l'agrégation de philosophie. Il est premier, elle est deuxième, mais elle est la plus jeune agrégée de France.
que Sartre lui dit, mais écrivait donc sur la condition féminine. Donc il y a eu vraiment cette espèce d'interaction très forte entre deux intellectuels.
Annie Cohen-Solal, écrivain.
Vous savez que quand ils ont passé la grecque de philo, faut savoir ça. Le jury d'agrès a dit, au fond, l'œuvre philosophe des deux, c'est elle. C'est elle, la tête philosophique, c'est pas Sartre. Et elle avait eu une meilleure note à sa dissert.
Après l'obtention de la grecque, Sartre rejoint Beauvoir en vacances chez ses parents partis à la campagne pendant l'été. C'est là qu'ils commencent leur liaison. Sartre demande même Beauvoir en mariage, mais elle refuse. Elle ne veut pas de cette vie bourgeoise. Un drame tout proche va bientôt achever de lui prouver que les mœurs bourgeoises asphyxient les femmes. Pour découvrir la suite de cette série spéciale en 4 épisodes, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite.